Universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le monde aujourd'hui, Morgane Guiriac et Chérubin Dorcil à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité, Côte d'Ivoire, les co-accusés de Simone Gbagbo comparaissent à la cour d'assises d'Abidjan.
Lutte contre Ebola, une compagnie américaine débute les premiers essais sur des humains d'un vaccin contre la maladie.
La Tunisie a un nouveau Premier ministre. Quels sont les défis qui attendent Habib Essid, un ancien fonctionnaire de Ben Ali?
Juste à côté qui est enflammé, ces problèmes de pauvreté, de chômage qui ont été à l'origine de la révolution.
Mourad Selami du journal Le Quotidien à Tunis.
États-Unis, une rentrée parlementaire sur fond de tensions entre conservateurs républicains et l'administration Obama.
Et nous aurons comme d'habitude notre page économie, les sports et la musique. Mais d'abord, le journal.
Au Burundi, trois militants du parti au pouvoir ont été abattus dans l'est du pays, marqué par une longue guerre civile. Cette spirale de la violence s'installe à 5 mois des élections générales.
Abdelkader Babalade, ancien chef rebelle tchadien, a été extradé vers son pays. C'est ce qu'indique l'AFP, citant une source judiciaire à N'Djamena. Arrêté en Centrafrique début décembre, il aurait été remis aux autorités tchadiennes dans la nuit de vendredi à samedi, on le sait, puis présenté au procureur et à un juge d'instruction hier. Babalade est poursuivi pour détention illégale d'armes, association de malfaiteurs, rébellion, incendie volontaire de village, viol, mise en danger de la vie de ses compatriotes, selon cette source.
En Côte d'Ivoire, les co-accusés de Simone Gbagbo ont commencé à défiler aujourd'hui à la barre de la cour d'assises d'Abidjan. L'ex-première dame n'était pas présente à l'audience, nous dit Georges Léonard Sagnot.
Après une semaine d'interruption, le procès débuté le 26 décembre est rentré dans le vif du sujet avec l'audition de 6 co-accusés présentés comme des miliciens pro-Gbagbo. Les 6 hommes sont arrivés menottés dans la salle d'audience, placés sous haute sécurité. Le premier d'entre eux à comparaître à la barre a nié toute responsabilité dans les violences post-électorales de 2010-2011. Simone Gbagbo est jugée en compagnie de 82 dignitaires de l'ancien régime, dont les premiers ministres Pascal Affi-N'Guesson et Marie-Gilbert Aké-Nguibo, pour son rôle présumé dans la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011 qui a fait plus de 3000 morts. Selon plusieurs observateurs, la bonne tenue de ce procès est un test pour le gouvernement ivoirien qui assure que la Côte d'Ivoire est capable de rendre un jugement équitable alors que la Cour pénale internationale continue de réclamer le transfèrement de Simone Ehive Gbagbo à La Haye.
Au Burkina Faso, le président Michel Kafando exprime des réserves concernant la participation des Burkinabés de Côte d'Ivoire à la prochaine présidentielle prévue en 2015 dans son pays, y voyant un danger. « Nous avons peur aussi que le danger ne vienne de là-bas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que nos propres élections soient perturbées au Burkina parce que de l'autre côté, on aura sciemment manigancé les choses », aurait déclaré Michel Kafando, cité par l'agence France Presse.
Justice internationale, un témoin clé de la défense au procès du vice-président kényan William Ruto a été retrouvé mort. L'homme d'affaires a été retrouvé dans une rivière à 300 km de la capitale du Kenya, Nairobi. Rappelons que William Ruto est poursuivi par la Cour pénale internationale pour les violences post-électorales de 2007-2008.
Le président en exercice de l'Union africaine estime que l'épidémie d'Ebola est un défi qui va pousser les États de l'Afrique de l'Ouest à s'unir davantage. Le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz s'exprimait lundi soir depuis Monrovia, où il était en visite. Sur le front de la recherche, le géant américain Johnson & Johnson annonce le début des premiers essais sur l'homme de son potentiel vaccin contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nicolas Pinault.
Oui, les premiers volontaires ont reçu leur dose initiale, c'est ce qu'indique Johnson & Johnson dans un communiqué. Ces études de phase 1 sont menées au sein de l'université britannique d'Oxford. La phase 1 est la première des 3 phases que doit franchir un vaccin avant d'être autorisé puis commercialisé. Le groupe américain avait annoncé fin octobre avoir dégagé jusqu'à 200 millions de dollars pour accélérer la production d'un vaccin. Mais Johnson & Johnson n'entend pas en rester là et compte aller plus vite puisqu'il espère engager des études sur un grand nombre de patients dès le mois d'avril. Il a déjà produit plus de 400 000 doses de vaccins et compte en fabriquer au total 2 millions d'ici la fin 2015. Si nécessaire, Johnson & Johnson se dit en mesure de porter sa production jusqu'à 5 millions de doses dans un délai de 12 à 18 mois. Je vous rappelle que l'épidémie d'Ebola a déjà fait plus de 8 100 morts en Afrique de l'Ouest.
Conséquence de l'attaque du palais présidentiel gambien le 30 décembre, le président Yahya Jammeh promet de se débarrasser des meneurs jusqu'au dernier. Affirmant avoir été clément lors de précédentes tentatives de coup d'État en 2006 et 2009 notamment, Yahya Jammeh indique qu'il ne laissera plus des putschistes condamnés à mort saisir la Cour suprême.
Au Caire, la capitale égyptienne, un démineur de la police a été tué. D'après l'agence France-Presse, citant les autorités, il tentait de désamorcer une bombe devant une station-service non loin d'un poste de police. Le groupe djihadiste Anjad Ajnad Misr, qui a déjà revendiqué de nombreuses attaques visant la police au Caire, a revendiqué cet attentat.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, violence en Irak où 23 personnes ont été tuées dans deux attentats suicides et des affrontements avec les militants de l'État islamique dans la province d'Al-Anbar. Les précisions de Michel Joseph.
Les deux attentats visaient une mosquée de la localité d'Al-Djouba, abritant des combattants anti-djihadistes, et ont fait 10 morts. Selon l'AFP, des affrontements ont ensuite éclaté, faisant 13 morts et 21 blessés dans les rangs des forces de sécurité irakiennes, qui se sont alors retirées de la localité. Ces violences ont eu lieu près de la ville de Baghdadi. Celle-ci abrite la base aérienne d'Al-Assad, où des conseillers militaires américains sont déployés. La base sert notamment de centre d'entraînement des combattants tribaux qui prennent part à la lutte contre l'État islamique. Lors d'une rencontre hier avec le nouveau gouverneur d'Al-Anbar, le premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a appelé les tribus locales à se soulever contre ce groupe djihadiste. Une révolution tribale est nécessaire pour débarrasser la société irakienne de cet ennemi, a fait savoir le bureau du premier ministre irakien cité par l'AFP.
En Israël, un tribunal militaire a condamné Oussam Hassan Kawassame, un militant du Hamas, à 3 peines de prison à vie pour le meurtre de 3 adolescents israéliens. Le condamné devra aussi verser des dommages et intérêts de 63 000 dollars à chacune des 3 familles. 2 de ses complices avaient été abattus par les soldats israéliens lors de l'enlèvement des adolescents près d'Hébron en septembre dernier.
Attentat suicide mené par une femme à Istanbul a fait au moins un mort et 2 blessés aujourd'hui, c'est ce qu'indiquent les autorités turques. L'explosion a eu lieu dans un poste de police, dans un quartier très fréquenté par les touristes. La kamikaze, est morte dans cet attentat qui n'a pas été immédiatement revendiqué.
La recherche des passagers du vol 8501 d'Air Asia se poursuit dans des conditions météorologiques difficiles, mais 2 autres corps ont été repêchés ce mardi. Au 10e jour de l'opération, au large de la côte de Bornéo, 39 corps ont été retrouvés. L'avion s'est abîmé en mer le 28 décembre avec 162 personnes à bord.
Alexei Navalny défie les autorités russes qui l'ont placé en résidence surveillée suite à un procès pour escroquerie. L'opposant russe, condamné à 3 ans et 6 mois de prison avec sursis, a sectionné son bracelet électronique, disant que sa détention est illégale puisqu'il a bénéficié d'un sursis. Dans le même procès, un frère d'Alexei Navalny a écopé de 3 ans et demi de prison ferme.
C'est la rentrée parlementaire ce mardi ici aux États-Unis où les Républicains contrôlent désormais les 2 chambres du Congrès. John Boehner a été réélu président de la Chambre basse. Au sein du Grand Old Party, les éléments conservateurs sont déterminés à faire certaines mesures, à défaire de préférence certaines mesures adoptées par le président Barack Obama. Par exemple, la loi sur l'assurance santé, communément appelée Obamacare.
Cuba a libéré des prisonniers politiques comme le souhaitaient les États-Unis dans le cadre de l'amorce d'un rapprochement diplomatique entre les 2 pays. C'est ce que rapporte l'AFP citant la porte-parole du département d'État. Ils ont d'ores et déjà libéré certains des prisonniers, a déclaré Jennifer Psaki, sans dire combien de personnes étaient concernées et en précisant que ces détenus figuraient sur une liste de 53 noms sanctions que Washington avait soumises à La Havane. Les présidents américains et cubains Barack Obama et Raúl Castro ont annoncé le 17 décembre que les deux pays allaient amorcer une normalisation de leurs relations diplomatiques après plus d'un demi-siècle d'embargo économique américain contre l'île communiste. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et nous retrouvons la Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Pour vous servir aujourd'hui, Félix Yepassi-Zimbrou. Bonsoir Félix.
Bonsoir Gabi, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Marche annoncée des travailleurs du Bénin pour dénoncer la mauvaise gestion au sommet de l'État et exiger l'amélioration des conditions de vie des travailleurs.
Oui, Morgane, réunie au sein du Forum des travailleurs, les forces vives du Bénin fustigent la mauvaise gouvernance au sommet de l'État. Ils ont donc décidé de se faire entendre à travers une marche pacifique demain mercredi 7 janvier 2015. Les travailleurs comptent occuper la rue en suivant l'itinéraire de la Bourse du Travail à la place de l'Étoile Rouge, en passant par les carrefours Saint-Michel et Legba.
Le Cameroun va émettre à partir de demain des bons du Trésor d'une valeur de 5 milliards de francs CFA sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale.
Le Cameroun lui ouvrira ainsi la première séance d'adjudication de l'année. D'une durée de maturité de 52 semaines, les soumissionnaires sont invités à s'adresser aux 13 banques de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le Trésor public camerounais ambitionne de mobiliser 45 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la BAC, à raison de 15 milliards de francs CFA par mois, selon le calendrier indicatif des émissions de titres publics rendus publics par le ministère des Finances.
Enfin, Algérie, manifestation dans le Sahara contre l'exploitation du gaz de schiste.
Oui, Morgane, le ministre de l'Énergie, Youssef Youssfi, a annoncé le 27 décembre que l'Algérie venait d'effectuer avec succès son premier forage pilote de gaz de schiste dans le bassin d'Atnet à In Salah, le qualifiant de très prometteur. Depuis, plusieurs manifestations contre l'exploitation de cette énergie ont eu lieu dans des provinces sahariennes où se trouvent les gisements en hydrocarbures. Selon la presse, les jeunes en colère dénoncent une atteinte à l'environnement.
Voilà pour la Minute Éco avec Félix Yepassi-Zimbrou.
Et l'on passe tout de suite à la page sport avec Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
On en parlait hier, eh bien la Guinée équatoriale a enfin un nouveau sélectionneur.
Oui, l'entraîneur argentin Esteban Becker a été nommé à 11 jours de l'entrée en liste du Nzalang à domicile pour sa CAN 2015. Becker qui a été champion d'Afrique en 2012 à la tête de l'équipe féminine équato-guinéenne. Il prend la succession de l'Espagnol Anthony Goycochea, limogé le 31 décembre.
Autre mouvement sur un banc de touche en Afrique.
Mais oui, passé par la SEC Abidjan. En Coton Sport de Garoua et l'Espérance de Tunis, le Français Sébastien Desabres s'est engagé pour une saison en faveur du Recreativo Libolo, le champion d'Angola. Libolo m'a contacté et ce qui m'intéressait, c'était de rejouer la Ligue des Champions, a déclaré Sébastien Desabres à nos confrères de France Football.
Il y a un adversaire pour empêcher la réélection de Sepp Blatter à la tête de la FIFA.
Et le prince jordanien Ali bin al-Hussein a annoncé sa candidature à la présidence de la FIFA. Âgé de 39 ans, le prince Ali, vice-président de la FIFA pour l'Asie, espère redorer le blason de l'instance du foot mondial éclaboussé par des scandales de corruption.
Quelques résultats de la NBA, la Ligue de basket nord-américaine.
L'Allemand Dirk Nowitzki est devenu la nuit dernière le 7e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, permettant à son équipe de Dallas de s'imposer en prolongation face à Brooklyn, 96-88. Memphis s'est imposé facilement, 105-83 contre les New York Knicks, 12e défaite d'affilée. Cleveland, privé de LeBron James, s'est toujours blessé et tombé à Philadelphie, 95-82. En Californie, Golden State a poursuivi sa domination contre la Conférence Ouest avec la nette victoire 117-91 sur Oklahoma City. Et puis à l'Est aussi, le leader a confirmé sa domination. Atlanta s'est imposé sur les parquets des LA Clippers, 107-98. Enfin, Chicago a battu Houston, 114-105.
Il faut aussi mentionner que Washington, les Wizards de Washington, ont gagné face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans.
Tout à fait.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcide et Morgan Guirec en votre compagnie pour cette édition du 6 janvier 2015. Et donc avant de passer au dossier du jour, cette nouvelle qui vient de tomber, Gabi.
Oui, selon le gouvernement américain, l'un des principaux commandants de l'armée de résistance du Seigneur se serait rendu aux forces américaines en Afrique centrale. Le département a déclaré ce mardi qu'un homme qui s'est présenté comme Dominique Ongwen s'est rendu en République centrafricaine et selon Jen Psaki, qui est la porte-parole du département d'État, on essaie maintenant d'établir de façon positive l'identité de cet homme qui se présente comme Dominique Ongwen. Il faut signaler aussi, Morgan, que les États-Unis avaient déjà offert une prime de 5 millions de dollars pour toute information menant à la capture d'Ongwen.
On met maintenant le cap sur la République démocratique du Congo. L'ONU met en garde les rebelles FDLR. Les opérations militaires pour désarmer les forces démocratiques pour la libération du Rwanda vont débuter incessamment au nord et sud Kivu. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Rudaikwa.
Ces opérations viseront maintenant à désarmer les FDLR parce que l'ultimatum de reddition volontaire a expiré le 2 janvier dernier à minuit. Le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, chargé des opérations dans l'est de la RDC, est catégorique.
Notre position est claire. Nous allons nous engager contre les FDLR. Pas de déclaration d'intention, pas de diversion. Où ils désarment, le message pour eux est valable. Voilà la position de la commission.
Malheureusement, le président intérimaire des FDLR actifs en RDC, le général-major Victor Biringiro, continuait à tergiverser même à la date de l'expiration de l'ultimatum de reddition volontaire de ses combattants Hutu rwandais. Il s'est confié récemment au journaliste Arusa Mambo dans les territoires de Walikale.
La date du 2 janvier 2015 existe, mais pour ce qui va se passer à cette date, c'est la communauté internationale qui le sait et c'est Dieu qui le sait. Si on nous attaque, je ne crois pas que ça se fera.
Ces opérations militaires inquiètent quelques habitants de Walikale, Masisi et Rutshuru qui vivent dans les espaces sous contrôle des FDLR. Le chef de la localité de Lushowa, dans le groupement de Kisimba à Walikale, a été joint au téléphone.
Nous avons un problème. En suivant la radio, nous avons entendu que les combattants FDLR seront traqués de partout où ils se cachent. Alors, ce lundi, les classes vont réouvrir. Comment vont étudier nos enfants pendant cette traque? Ce qui peut nous aider, nous, en tant qu'habitants du secteur de Wanyanga, groupement Kisimba, localité Lushowa, c'est d'explorer la possibilité d'un dialogue inter-rwandais. Ça peut beaucoup nous aider parce que depuis que nous fouillons d'un village à l'autre suite à la guerre, beaucoup d'enfants n'ont pas étudié. Maintenant, nous nous sommes réinstallés, nous avons des cultures dans les champs et de l'élevage en pleine reconstitution. Nous ne saurons pas fuir une nouvelle guerre avec tout ça.
Selon le général Abdallah Wafi, la MONUSCO et les FARDC ont déjà pris des dispositions pour que la traque des FDLR se fasse dans le respect des règles et du droit humanitaire. Depuis Goma, Primo Pascal Rudaikwa, La Voix de l'Amérique.
On reste en République démocratique du Congo pour parler de la réaction de 850 agents de la société minière du Katanga GECA Mine. Ils ont reçu un avis de retraite. Ils sont âgés de 60 à 65 ans, mais rejettent cette décision qui est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2015. On fait le point avec notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila.
Ils sont 850 agents de la Générale des Carrières et des Mines âgés de 60 à 65 ans qui ont été notifiés pour aller à la retraite sur les 10 000 agents contractuels, explication du président de l'intersyndicale Kasongo Mabusha.
Dans un premier temps, c'est 855 qui nous a été communiqué par l'employeur dont les conditions ont été négociées avec les syndicats. Une première fois pour la GECA Mine, même ceux qui partiront à l'avenir partiront aussi dans les mêmes conditions que ceux qui partent maintenant. La GECA Mine n'a jamais connu ça. Un agent qui part en retraite, avant d'être payé, il a un salaire d'attente.
Malgré les explications de cette décision, les agents concernés ne sont pas rassurés. Monsieur Mouderoi, qui part à la retraite.
Oui, avec ce que la GECA Mine a fait voir à ceux qui sont partis. Elle n'est pas fiable, ils sont là. Ils sont en train de courir pour avoir leur argent. Parce qu'ils ne l'auront jamais.
Vous êtes en train de soutenir l'insoutenable. Mmh. Et tout le monde sait que tous ceux qui soutiennent l'insoutenable, c'est tout le monde sait ce qu'ils ont déjà eu, ce qu'ils n'ont pas eu. Oui. Ou quoi. Bon.
Maintenant, les gens vont commencer à marcher. Hey, qu'est-ce qu'on a dit? Hey, c'est sûr, attendez. Ce sera des stress qui vont envoyer les gens à la mort.
Pour les directeurs des ressources humaines de la Générale des carrières et de mines, M. Ekuchu pense, vu le nombre pléthorique dont la plupart des agents vieillissants avec une production faible, la Générale des carrières et des mines est obligée d'assainir le milieu.
Alors qu'avant ceux-ci qui vont partir le 1er janvier, il y a bien d'agents chez Camille partis en pension, bien d'agents chez Camille décédés dont la situation attend donc le décompte final, bien d'agents chez Camille sortis qui attendent le décompte final depuis 5, 6, 7 ans, 10 ans sans un salaire d'attente. Ils sont partis d'eux-mêmes. Il n'y a pas eu un plan de financement de leur retraite. Leurs prédécesseurs sont partis sans un salaire d'attente. Ici, il y a une disposition du conseil d'administration. Non seulement donc elle paye un salaire d'attente à ceux qui vont partir, elle doit engager des personnes qu'elle doit payer pour élever, donc améliorer sa production.
La puissante générale des carrières et des mines qui a fait la fierté du Congo démocratique en produisant 450 000 tonnes de cuivre est aujourd'hui considérée comme un éléphant abattu où les décideurs trouvent leur compte dans les contrats et la vente des gisements. Lubumbashi, Narval Mabila, pour la Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
En Tunisie, Habib Essid est depuis hier le nouveau Premier ministre. Ancien ministre de l'Intérieur pendant la transition et secrétaire d'État à l'environnement sous le régime de Ben Ali, il doit former une équipe capable de redresser le pays dont l'économie a été durement touchée depuis la révolution de 2011. Pour un portrait du chef du gouvernement et les défis qui l'attendent, Idriss Fall a joint notre confrère Mourad Selami du journal Le Quotidien à Tunis.
C'est Habib Essid, un cadre de l'État pendant des décennies. Il est âgé de 64 ans, donc il a fait sa carrière dans les rouages de l'État tunisien. La plus récente de ses fonctions, il était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Béjira et de Tsepsi en 2011, c'est-à-dire sous la première transition. Donc Béjira et de Tsepsi n'a fait que rappeler l'un de ses fidèles aujourd'hui, lorsque Nida Tounes et Béjira El-Sebsi lui-même ont été élus aux hautes sphères de l'État.
Et quels seront ses premiers défis d'abord?
Comme tout le monde le sait, la Tunisie est face à une double crise sécuritaire et économique. D'une part, il y a un environnement régional très instable avec cette Libye juste à côté qui est enflammée et cette Syrie où l'État islamique fait des ravages et où la Tunisie dispose de près de 2000 jeunes qui sont dans les rangs de Daesh, donc il y a un défi sécuritaire énorme. Secondo, il y a le défi économique, ces problèmes de pauvreté, de marginalisation, de chômage, qui ont été à l'origine de la révolution, restent toujours des séquelles dans le tissu socio-économique tunisien, et auquel le futur chef de gouvernement doit faire face.
Quant à la formation du gouvernement, est-ce qu'il va tendre la main à Ennahda ou bien?
Au fait, le choix même de Habib Essid relève d'une conviction chez Béjira et de Tsepsi, chez Nida Tounes, que rien ne peut se passer sans un consensus national. En effet, le choix de Essid a été parrainé, entre guillemets, ou avalisé par Ennahda, qui se sont vite empressés de dire qu'ils vont soutenir le prochain gouvernement et qu'ils examineront éventuellement la possibilité d'y participer. Donc, Nida Tounes a cherché à ce que son prochain gouvernement soit entouré d'un consensus national pour pouvoir relever ces grands défis qu'attendent la Tunisie.
C'était Mourad Selami du journal Le Quotidien à Tunis.
Nouveau numéro de Washington Forum, bonne année 2015 à tous. Nous ferons le point sur le virus Ebola un an après son apparition en Guinée. La menace est-elle écartée? La mobilisation internationale est-elle suffisante? Nous en débattrons. Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook et à jeudi, 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
C'est une réalité. Boko Haram sème la psychose parmi les populations dans l'extrême sud-est du Niger, à la frontière avec le Nigeria et le Tchad. Tous les jours, des centaines de Nigérians traversent la frontière pour trouver refuge au Niger. Idriss Fall a joint Djibrila Malam Kala, il est maire de la commune de Chetimari, dans la région de Diffa.
C'est au Niger, mais au Niger, quand même, les Boko Haram ne sont pas encore intervenus au Niger pour faire des dégâts. Mais, compte tenu de la proximité, nous, en face de nous, c'est le village de Damasak, Nigeria. Quand il y a eu des attaques là-bas, il y a beaucoup de gens qui ont fui vers le Niger.
Et il y a combien de réfugiés venus du Nigeria?
Bon, moi, je vais vous donner une estimation, parce qu'il y a le service de l'État civil et des réfugiés qui avait fait un recensement. Je sais que ce n'est pas exhaustif. C'est que tous les jours, il y a des centaines qui viennent au Niger pour être protégés. Maintenant, je suis en voyage, je ne suis pas à Difame, je suis à Chetimari, je suis à Zender. Mais je peux estimer, à mon départ, je peux estimer environ à 4 000 dans la commune de Chetimari. Ils sont accueillis ou par une structure de l'État ou dans des familles d'accueil. Là où ils sont, là, c'est à peine à 14 km de la frontière. Ils peuvent s'infiltrer pour venir faire des dégâts. Mais pour éviter ça, vraiment, le gouvernement a pris des dispositions, supervisé même par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, ainsi qu'a été créé pour les héberger à peu près à 50 km au nord de la commune, 50 km à peu près de la frontière entre nous et le Nigeria. Là, il y a eu des abris avec le concours des humanitaires des Nations Unies, du système des Nations Unies.
Au niveau des populations du Niger, comment les gens vivent tout cela?
Vraiment, c'est la même culture, tous sont des parents, c'est la rivière qui nous sépare, on a les mêmes principes, mais il y a une certaine psychose au niveau de la population. La population a un peu peur, ce qui est arrivé là-bas, pour que ça arrive chez nous. Mais là aussi, le gouvernement a pris des dispositions, le gouvernement nigérien a pris des dispositions, des missions de sensibilisation. On veut surtout la contribution de la population. Quand il y a des personnes suspectes, qui ont des suspicions, ils doivent informer les autorités. C'est quoi? Informer les chefs de village, les chefs de canton, les maires, les préfets, les gouverneurs. Vraiment des informations, tout juste pour assurer leur protection.
Est-ce qu'il y a un renforcement des mesures de sécurité à la frontière?
Ah oui. C'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui est venu superviser même cette situation. Le gouvernement a pris ça au sérieux et il y a des postes de contrôle avancés. Et là où il y a les réfugiés, il y a la garde nationale et vraiment il y a l'ensemble des forces de sécurité pour assurer leur sécurité.
Djibrila Malam Kala, maire de la commune de Chetimari dans la région de Diffa au Niger. Alors Morgane, c'est Josèle Morissin qui annonce la couleur, peut-être pour te plaire, te dire bon retour.
Oui, voilà, du zouk. Et donc c'est Zeki, l'artiste, et je vais essayer de prononcer correctement le titre, et Nkré Sabebou nommé.
Okinga shinti pabo, yeah 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 yeah. Hey, ukita shinti pabo semen, preocupação já tá acabando. Sossegar me tá fica, pamora me está cansado, cansado, torturado, desconfiado, yeah yeah yeah. Yeah, yeah, yeah. Hey, o que tá sentindo com você mesmo? Preocupação já tá acabando. Sossegar me tá fica. Pra morrer me está cansado. Cansado. Torturado. Desconfiado. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Thank you.
Voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Josèle Morissin a dirigé la mise en onde.
Accompagné de notre ami Witt, Jackson Witt, à la console technique.
Un grand merci à toute la rédaction pour nous avoir aidé à préparer cette émission. Au micro, c'était Morgane Guiriec.
Et Gabi Dorsil.